Beurre FM, le best-of. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran au 01 53 48 3000 qui répond à vos questions. Ratiba, bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Ratiba, bienvenue.
Je vous appelle parce que j'ai deux questions, s'il vous plaît.
Mmh. Allez-y.
La première, c'est que mon père, il est né en Algérie en 1945. Et à ce moment-là, on savait tous que l'Algérie, c'était française. Algérie, c'était français, c'est ça. Mmh. Et je me demande, est-ce que c'est possible de faire les papiers pour mon père tant que, en ce moment-là, c'était l'Algérie française.
Alors, c'est l'éternelle question, en fait. Il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire que les autorités françaises vérifient si la personne bénéficiait du droit du sol. C'est-à-dire que les Algériens étaient considérés comme français, mais pour faire simple, entre guillemets, comme des sous-français. Sous-français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Algériens-là, en qualité, entre guillemets, de sous-français, ne peuvent pas ou ne pouvaient pas transmettre leur nationalité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'indépendance, on considère que ces personnes sont devenues de nationalité algérienne et donc elles ne transmettent pas cette nationalité française du temps de la colonisation. Mais pour être certain d'être fixé sur un plan purement juridique, alors d'abord, est-ce que votre père a une pièce d'identité, enfin une vieille pièce d'identité française?
Non.
Non,
non.
En gros, le document qu'il a, c'est son acte de naissance, donc qui est établi, qu'il est né pendant la période de l'Algérie française. Alors, dans le doute quand même, s'il y a que ça, il arrive parfois de saisir les services compétents. Là, votre papa, il est où? Il est au pays?
En Algérie.
Alors, c'est dans ce cas-là, le service de la nationalité française qui se situe au tribunal judiciaire de Paris, on dit qu'il a une compétence exclusive. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, et donc notamment en Algérie, il n'y a que ce service-là, ce service de la nationalité à Paris, qui est compétent, qui peut traiter le dossier. Donc la demande doit être faite auprès de ce service. Et ce service, alors, va vous apporter une réponse, alors positive ou négative. Il peut vous demander de compléter le dossier. Alors, si la réponse est négative, vous pouvez toujours contester si c'est pas suffisamment motivé, c'est-à-dire s'il donne pas d'explication pour dire il peut pas être français pour telle ou telle raison, mais c'est toujours contestable. Et ensuite, si vous contestez cette décision, c'est toujours à Paris, mais c'est le tribunal, on appelle ça le tribunal judiciaire. Et puis le service de la nationalité peut, c'est pas exclure, dire bah oui, ok, effectivement, ce monsieur est considéré comme français.
D'accord.
Mais donc il faut saisir ce service-là, hein, il n'y a pas d'autre option.
D'accord. Maintenant je vais aller à Paris pour faire une demande, c'est ça?
Vous pouvez envoyer un courrier. Vous trouverez sur internet très facilement l'adresse du service de la nationalité. Il faut envoyer un petit passage explicatif pour dire mon père est né en telle année, telle période, et avec l'extrait d'acte de naissance de monsieur, en justifiant qu'il demeure toujours sur le territoire algérien, ils vont vous renvoyer, quand vous allez les saisir, ils vont vous renvoyer un formulaire particulier, un formulaire de chez eux. Il faudra à nouveau renvoyer quand même ce formulaire.
D'accord.
Voilà. Et puis, alors, même chose, hein, vous envoyez tout ça en courrier recommandé avec accusé de réception, hein, pour être certain que ça a bien été réceptionné. Et puis, il va falloir attendre la réponse. Ils sont pas très pressés, hein, pour apporter les réponses. Faut faire attention à ça. Et ils mettent même de plus en plus de temps. Alors, non pas parce que ces services seraient composés par des feignants, mais il y a eu une explosion des demandes de certificats de nationalité française par notamment les Algériens, donc ils prennent le temps d'examiner tout ça. C'est-à-dire que quand ils vous répondent dans un délai d'un an et demi, parfois jusqu'à deux ans. C'est un délai, alors qu'il peut sembler insupportable, c'est un délai normal.
D'accord.
Voilà, ils mettent beaucoup de temps. Mais je le redis, parce qu'ils ont beaucoup de boulot, il y a beaucoup de vérifs à faire. Donc, et il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc voilà, hein, il faut pas être pressé quand on fait ce type de procédure.
D'accord. Ma deuxième question, c'est pour un cousin, pareil. C'est le même cas que mon père, mais juste lui, il a la nationalité déjà. Il a la nationalité, il est décédé, ses enfants, ils veulent faire la nationalité pour eux, mais le dossier, il était refusé.
Ouais. Pour quel motif ?
Ils ont fait des démarches en Algérie. Et ils cherchent quelqu'un ici en France pour que...
Ben, ce qu'il faudrait, c'est comprendre pour quelle raison ils l'ont refusé. Donc, voyez éventuellement si l'intéressé peut m'envoyer peut-être le courrier de refus pour voir.
Oui.
Encore une fois, on parle de motivation pour voir si c'est justifié ou pas, si c'est contestable ou pas. Donc, il faudrait commencer par ça.
D'accord. Je peux avoir votre numéro?
Ouais, vous avez de quoi noter?
Je crois qu'elle allait dire votre numéro de carte bleue ou de sécurité sociale.
Numéro de carte bleue, ouais, carte je peux bleue. Le donner. Ouais. Enfin, je ne certifie pas que ce sera le bon, mais je peux en donner un. Donc vous avez de quoi noter. Alors, 06.
Oui.
62.
Oui.
58.
Oui.
59.
59.
64.
64.
Bah, 06 62 58 59 64.
Merci beaucoup, Maître Serin.
Merci à vous pour votre appel.
Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre un autre auditeur, là? Oui, alors on peut aller accueillir Nora qui est avec nous. Nora, bonjour et bienvenue. Vous avez 4 minutes avec Maître Serin.
Allô?
Oui, Nora.
Juste une question très, très légère. J'ai la femme de mon frère là-bas. En Algérie, elle a son grand-père, il a la pièce d'identité française.
Ouais.
Alors, elle demande si elle a le droit pour les papiers pour elle.
Alors, même réponse qu'à l'auditrice précédente, c'est-à-dire qu'il faut savoir que si vous avez eu un grand-père, un arrière-grand-père qui bénéficiait de la nationalité française, il y a toujours la possibilité de saisir le service sur la base de ces éléments-là et dire mon arrière-grand-père, mon grand-père était français, est-ce que moi je suis considéré aussi comme française? Là encore, il n'y a jamais d'automatisme, donc c'est pour ça, ce serait pas sérieux de vous répondre, écoutez oui ou non, mais parce qu'il faut que l'avocat se base sur un certain nombre de documents, mais la procédure évidemment est tout à fait envisageable. Et on demandera les actes d'état civil de son grand-père, les actes d'état civil ensuite du père de votre ami, et puis ces actes d'état civil à elle pour établir ce qu'on appelle la filiation. Et à partir de là, effectivement, on a des personnes, des enfants, des petits-enfants qui se voient attribuer la nationalité française du grand-père ou de l'arrière-grand-père.
Et là, Nora, elle s'envoie. Oui, Nora.
La photocopie, elle m'a envoyé la photocopie pendant quand elle a délivré la carte de pièce d'identité à son grand-père, la date définie, c'est 1970. Et oui, maintenant, il est décédé.
Ouais.
Alors, elle garde la pièce d'identité comme un justificatif.
Voilà, ce sont ces documents-là qui seront demandés et qui devront être fournis au service.
D'accord. Alors, on va faire un courrier avec accusé de réception pour... la préfecture de Paris.
Non, c'est pas la préfecture de Paris. Alors, elle habite où, votre amie?
À Batna, en Algérie.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le service de la nationalité à Paris.
D'accord.
Ouais, mais c'est le service de la nationalité, c'est pas la préfecture.
Service de la nationalité qu'on trouve où, Maître Serran?
C'est au niveau du palais de justice de Paris.
D'accord. Voilà, pour tout le monde, regardez sur Internet, vous trouvez la nationalité. Voilà,
au niveau du palais de justice de Paris, et puis c'est ce service qui s'occupe de toutes les personnes qui sont à l'étranger.
Est-ce que c'est une procédure dans laquelle il faut recourir à un avocat?
Alors l'avocat n'est pas obligatoire, mais c'est un service qui est extrêmement pénible. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler leur langue. Mmh. Et il est honnêtement fortement conseillé. Parce que même avec un avocat, c'est un service qui est un peu, disons-le, un peu chiant. Mmh. Donc, parce qu'ils veulent pas.
Est-ce que vous connaissez un bon avocat, par exemple?
Alors, j'en ai un qui est très bon, mmh. qui s'appelle Maître Serran. Alors, je parle de mon frère aussi.
Ah oui,
mais
Mohamed.
Voilà. Mais vous l'aurez compris, je suis également Maître Serran. Enfin, voilà, ça fait quelque temps qu'on officie tous les deux. J'espère que vous le savez. Donc, il ne faut pas hésiter à m'appeler si nécessaire.
Enfin, un travail de groupe pour les Serran. Hein.
Absolument.
Bien, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, le best-of. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Au 01 53 48 3000, direction Toulouse, c'est Larsen qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, ah. Bonjour M. Serran.
Bonjour Larsen.
Oui, ça va.
Ça va et vous?
Ça va, merci. Je voudrais vous poser une question concernant le regroupement familial.
Allez-y, voilà, Larsen, on vous écoute.
Oui. Voilà, j'ai déposé un dossier pour ma femme et mon garçon mineur. Et bon, pour le moment, j'ai pas reçu de retour. Et je voudrais savoir quel est le temps de l'instruction du dossier.
Alors, on est d'accord, c'est-à-dire que madame et l'enfant sont au pays.
Ils sont en Algérie.
Voilà.
Oui.
Bon, parce qu'on a parfois des regroupements de cette nature qui se font alors que les uns et les autres sont sur le territoire français. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça fait combien de temps que vous avez diligenté la procédure?
Le mois de février, j'ai déposé là parce que j'étais en vacances en Algérie et quand je suis revenu, j'ai déposé mon dossier le
D'accord.
mois de février.
Bon. Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a eu des démarches du côté mairie pour vérifier les conditions du logement?
Non, il n'y a aucune D'accord. démarche. Le seul retour que j'ai reçu, c'était la lettre recommandée de mon dossier. Voilà.
Ah d'accord, le dossier que j'avais envoyé, simplement pour être certain que c'était réceptionné.
Oui, j'ai reçu le retour. Ouais, mon dossier d'accord. vient d'arriver à l'OPI. Et là, j'ai pas reçu de retour.
Alors, il n'y a pas, en vérité, de délai particulier. C'est-à-dire que dans la pratique, ils mettent parfois entre 6 et 8 à 10 mois. Pour avoir un premier retour et le premier déclic, et c'est là où on se dit bah tiens le dossier avance quand même un peu, c'est le courrier de la mairie qui va vous informer donc qu'une personne va venir contrôler le domicile et voir un peu au niveau superficie et autres comment ça se passe. Mais pour être tout à fait clair, c'est-à-dire que et vraiment depuis quelques temps en particulier. Même lorsque ces démarches sont faites, même lorsque il y a un feu vert qui est ordonné pour autoriser le regroupement familial, vous avez toujours une administration qui est pointilleuse pour ne pas dire pénible, qui traîne. Et ça, c'est insupportable puisqu'on n'a pas en vérité à partir du moment où on sait que on obtient le feu vert, on n'a pas de moyen de pression. Pour leur dire, attendez, puisque j'ai obtenu le feu vert, qu'est-ce qui fait que un citoyen lambda d'une administration vient me compliquer la vie? Et ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive même lorsqu'on obtient une décision de justice qui dit, on est d'accord pour le regroupement familial. Ça commence à bloquer parfois, on appelle ça la mauvaise foi, hein, tout simplement, ça commence à bloquer parfois au niveau de l'exécution de la décision. Donc c'est vrai qu'il va falloir être armé de patience, mais bon, je vous dis, quand ils reviennent vers vous dans un délai de 6 mois à minima, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc soyez pas surpris. Le délai que vous m'avez donné, en tout cas le dépôt du dossier et la période où on se trouve actuellement, donc soyez pas surpris, c'est un délai, alors qu'évidemment est long pour vous, mais qui est, j'allais dire, habituel, pour ne pas dire normal.
Oui, il y a autre chose, M. Serran. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de leur demander un visa en attendant l'instruction de
non, et, alors,
du dossier?
C'est une très bonne question, vraiment, parce que, comme ce sont des procédures qui sont longues, on a parfois... Oui. Des personnes au pays qui se disent en attendant que le dossier soit instruit, je vais solliciter un visa. Alors, très souvent, c'est un visa court séjour pour dire au moins, voilà, je serai avec mon mari, avec ma femme, en tout cas, peu importe. Et quand on dépose un dossier de cette nature, enfin, quand vous formalisez une demande de visa, ils verront bien, monsieur, sur informatique, qu'il existe déjà un dossier de regroupement familial. De facto, ils vont s'y opposer. Vous voyez, c'est-à-dire que, en gros, on va considérer que vous essayez, en tout cas que madame essaie de court-circuiter le circuit traditionnel. Et c'est pas bon. Quand vous avez une ou deux procédures qui s'entrechoquent, en règle générale, l'administration française est bête et méchante, c'est-à-dire qu'elle dit non à tout. Donc, stratégiquement, il vaut mieux éviter que madame se grille toute seule et fasse une demande, même si je peux le comprendre, mais vaut mieux éviter qu'elle fasse une demande de cette nature.
Ok, d'accord, merci maître.
Merci à vous pour votre appel et bon courage.
Merci la scène, on reste à Toulouse et c'est Camélia qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir, non, bonjour Camélia.
Bonjour.
9h28, c'est encore le matin. Bonjour Camélia.
Okay, décalage bon, horaire à Toulouse.
Ah bah, je suis en décalage.
Normalement, c'est chez nous, c'est toujours 9h28. Je ne sais pas, est-ce que ça change chez vous?
Ah, je ne sais pas, à Toulouse, il y a le méridien de Toulouse, donc bon.
Ok, j'ai appelé juste pour remettre en avance qu'il a posé la question à Hassan, parce que moi aussi j'ai fait une demande de regroupement familial ici à Toulouse. J'ai fait ma demande depuis janvier 2020 et je viens d'avoir l'avis favorable. C'est pour mon fils qui est mineur. Je viens d'avoir la réponse mois de mars. Alors c'est juste pour lui dire, il faut patienter parce que Toulouse c'est parmi les...
Ouais, enfin de 2020 maintenant, ouais, c'est, il faut vraiment patienter. Enfin c'est même abusif comme timing.
Eh bien oui, parce qu'une année après, au mois de janvier, j'ai pu avoir mon attestation de dépôt. Entre-temps, j'ai eu trois fois une relance de complémentaire de dossier. Et après, il faut juste patienter sur le département de Toulouse.
Alors, ce que vous dites est intéressant parce que les administrations sont quand même assez, assez pénibles, pour ne pas dire gonflées. C'est-à-dire que... on vous demande une liste de documents, vous envoyez les documents et puis... Il peut arriver que tous les documents envoyés par le client soient pas complets, mais l'administration revient pas vers vous dans la semaine ou dans le mois qui suit. C'est-à-dire ils mettent parfois 5-6 et parfois même une année pour vous dire bah attendez, il nous manque encore telle ou telle pièce, et c'est ce qui fait que les délais sont parfois particulièrement longs. C'est pas le système en lui-même, c'est le ou la personne qui a géré votre dossier. On a du mal à comprendre, encore une fois, quand il vous manque une pièce, à minima, l'administration peut revenir vers vous. Allez, on va dire même dans le mois, ça peut sembler raisonnable. Parfois, ils attendent 8 mois, 10 mois, même un an pour dire renvoyer tel document puisqu'il est manquant. Et c'est comme ça que l'administration, j'allais dire, gagne du temps. Alors, quand on dit ça, on a parfois l'impression qu'ils font ça pour essayer de dégoûter l'autre, c'est-à-dire pour dire, bon, bah, écoutez, bah, tant pis, et puis le regroupement familial, on passera à autre chose. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion des dossiers, c'est parfois assez compliqué.
J'aimerais bien passer juste un mot, parce que tous les deux complémentaires que j'ai eus, c'était juste la mise à jour de mes fiches de paye, et niet, c'était juste ça. Alors,
ouais, c'est débile. Voilà, si on est en 2020 et je vous demande des fiches de paye de 2020, c'est certain que si j'attends 2021 ou si j'attends 2022, de facto, vos documents seront plus d'actualité. Mais on part du principe que si vous me les demandez en 2020 ou en 2021, bah même s'ils prennent une décision tardive, eh ben les documents restent valables. C'est ça qui est un peu compliqué avec eux.
Ben oui, c'est ça. En plus, de toute façon, pour être honnête, moi, j'ai pas de soucis par rapport ni au logement ni à l'appartement. Je suis cadre à Airbus et tout. Alors, je me posais la question que ça matchait d'ici 6 mois max. Mais à la fin de compte, ça a pris 2 ans. Et même, j'aimerais bien préciser que j'ai eu l'avis favorable le mois de mars et la redevance, parce que je suis algérienne, le paiement de la redevance un mois après. À la fin de compte, il faut prendre du temps et c'est ça l'OFI de Toulouse en galère. On a même fait une pétition contre ça et tout, mais on n'a pas eu de retour.
C'est pas une spécificité sur Toulouse, hein. Honnêtement, voilà, ce serait pas honnête intellectuellement de dire tiens, à Toulouse, ils travaillent moins vite qu'ailleurs. C'est souvent le cas en la matière, hein, quel que soit le l'OFI concerné.
Ben oui, c'est ça. Mais du coup, je voulais juste mettre un point par rapport à ça et souhaiter bon courage à tout le monde. Et je vous remercie encore une fois et bonne fin de journée et Haït Komanga.
Merci Camilla.
Merci, à très bientôt.
Au revoir. Louisa est avec nous. Bonjour Louisa et bienvenue.
Louisa. Écoute, c'est un plaisir de, de vous dire bonjour Philippe. Hein. Vous écoutez assez régulièrement. Vous manquez parfois certaines émissions, Philippe.
C'est vrai, c'est Louisa.
Oui,
Louisa. C'est oui, c'est oui. Oui, c'est oui.
Oui, oui, oui. Bonjour Maître Serin ici.
Bonjour madame.
Allemand. Oui, Maître Serin, j'aurais souhaité savoir quel est le délai imposé, je ne sais pas si on a un délai imposé, pour négligence médicale à la suite d'un décès. Est-ce qu'il y a un délai pour
On est dans le domaine du délit, madame. C'est-à-dire que c'est un dossier, en tout cas une situation qui s'est produite quand?
Alors, écoutez, je vous explique très brièvement pour ne pas monopoliser. J'ai perdu ma fille. Ça va faire 2 ans le 26 juin pour l'urgence médicale à l'hôpital de Montfermeil. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, si vous voulez, aux urgences. C'était la deuxième partie du Covid, mais elle n'avait pas le Covid, ça n'a rien à voir. Simplement, on l'avait mis dans un box, si vous voulez, de côté. Disons qu'elle simulait ses hurlements, si vous voulez, que ça n'expliquait pas du tout une douleur. Ce sont les mots que le médecin m'a donné au téléphone. Il me dit, on comprend pas, écoutez, ouais.
Mais Louisa, c'était il y a 2 ans, c'est ça? C'est pour la prescription?
Ça va faire le 26 juin, ça va faire 2 ans. Alors, je vous explique pourquoi Maître Serin, j'ai pas pu tout de suite. Si vous voulez, j'ai demandé tous les relevés, tous les dossiers, si vous voulez. Je suis allée voir un expert médical aussi qui m'a dit, effectivement, il y a des points qui étaient très obscurs. Alors, je vous explique pourquoi. Moi, c'était pas pour attaquer, pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir parce que j'en veux pas. Simplement, si vous voulez, parce que je voulais voir le médecin qui m'avait donné ces explications au téléphone en me disant que ma fille simulait, on va dire quelque part, maladie psychosomatique, alors que la gamine.
Mais Louisa, en restant sur la prescription, parce que sinon.
Moi, je voulais parler au médecin qui m'a, si vous voulez, dit effectivement ces mots-là. Et on m'a dit qu'il faut que je dépose une plainte pour pouvoir avoir cette personne en face.
Non, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez opter pour l'aspect pénal.
Oui.
Et puis, on est en matière de délit, donc vous serez sur un timing de 3 ans. Mais c'est l'aspect pénal, c'est-à-dire que vous ne recherchez pas la responsabilité uniquement de l'hôpital. Je vais viser une personne et je considère que cette personne, donc ce médecin, est ou serait responsable. Moi, je vous invite plutôt, après, tout dépend de votre état d'esprit, puisque vous avez bien compris que la procédure pénale, c'est entre guillemets se dire je vais punir celui dont moi je considère qu'il est à l'origine de. Et puis vous avez évoqué une chose qui est intéressante, même si vous venez de dire écoutez, moi je fais pas ça pour l'argent. Dans ce cas-là, ce serait une responsabilité administrative, madame. Et selon moi, il vaudrait mieux se retourner directement contre l'hôpital parce que bien évidemment dans le cadre de cette procédure on en reviendra non seulement à la responsabilité du médecin alors à telle ou telle échelle, mais c'est la responsabilité de l'hôpital qui sera engagée. Et il vaudrait, encore une fois, selon moi, voire beaucoup plus large. Et si tout ça s'est produit au sein d'un hôpital, c'est une procédure administrative devant un tribunal administratif qu'il faudra diligenter.
Merci. D'autres questions?
Merci pareillement. Merci.
Dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, le best-of. Best-of. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Nous avons Fatima, Maître Serin, qui a une question pour vous. Fatima, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Fatima.
Bonjour Maître. Bonjour Fatima. Philippe. Je vais être brève. Je voulais savoir, j'ai fait un mariage et je viens de découvrir que la personne n'a pas divorcé en Algérie. Alors que
ça.
Sur le trait de naissance, il est mentionné divorcé.
Ouais. Alors c'est, je vais pas dire ça arrive très souvent parce que on aura l'impression que je suis en train d'exagérer, mais ça arrive parfois. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui présentent des actes d'état civil du pays qui sont entre guillemets vierges, et puis vous avez aussi un acte d'état civil où il y a la mention marié. Bon, il y, n'y a pas, y a pas mille options. Hein. C'est-à-dire que la personne de la mairie qui vous a fourni le document est en bisbille avec, avec monsieur. Oui. Mais oui. Vous avez l'acte d'état civil où il est indiqué que monsieur est marié ou pas ?
Marié et divorcé, avec un numéro d'acte.
Et alors, mais marié et divorcé, alors on peut être marié et divorcé, mais c'est-à-dire que quand vous êtes mariés tous les deux, officiellement, oui. Il était encore lui aussi marié de son côté ?
Bah, sur l'acte qu'il a fourni, il était divorcé. Il y avait la mention divorcé.
D'accord.
Avec un numéro d'acte.
D'accord.
Et quand on est parti à ce tribunal où il a divorcé, il n'y a pas de jugement de divorce.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que... Alors, son divorce apparaît sur l'acte d'état civil, mais officiellement, ce monsieur n'est pas divorcé.
Oui. Il n'y a pas aucune trace du jugement de divorce.
D'accord. Et quand vous lui posez la question à monsieur, il vous dit quoi ?
Il me dit « T'es folle, c'est pas vrai ».
Parce qu'en principe, lorsque l'on est effectivement divorcé, alors on parle d'un vrai divorce, hein, c'est-à-dire qu'avec un jugement et un jugement définitif, effectivement, les services de l'état civil vont le transcrire, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le faire apparaître sur l'acte. Comment vous avez, entre guillemets, découvert ça ? C'est quand même assez curieux de dire, bah viens, on va aller au tribunal pour vérifier si t'es bien divorcé.
Non, parce que la question, la femme est toujours à la maison, avec les enfants, son ex.
D'accord.
En disant qu'elle n'a pas où aller, comme gentiment, il la laisse à la maison. Mais là, il est parti, il est là-bas, il est dans la maison avec elle. Hein,
d'accord.
Avec les enfants. Donc ça m'a... Enfin, moi, j'ai pas pensé, j'ai fait confiance.
Ouais, bah oui, on peut...
Ça peut arriver.
Bien sûr.
Ça peut arriver. Et après, tout le monde m'a mis la puce à l'oreille en disant c'est pas normal. Du coup, j'ai envoyé mon frère, il est parti au tribunal, il n'y a pas l'acte de jugement. Le jugement de divorce, il n'existe pas.
Ah bah oui, s'il n'y a pas de jugement de divorce, madame, c'est qu'effectivement, par définition, ce monsieur n'est pas divorcé. Donc s'il n'est pas divorcé... C'est que son document sur lequel apparaît cette mention est un faux.
Parce qu'au tribunal, ils n'ont pas de truc. Ils ont regardé, ils ont dit il n'y a pas, mais j'ai aucune preuve.
Ah non, mais madame, la vraie preuve, c'est le jugement. Si un tribunal vous dit ce monsieur n'a jamais engagé de procédure de divorce, ça ne sert à rien de chercher d'autres preuves. Mais il faudrait.
J'ai commencé à douter, j'ai demandé. Montre-moi le jugement de divorce.
Ouais, voilà.
Je ne l'ai pas, je ne sais pas où je l'ai mis, ça fait longtemps, je ne sais pas. On ne le donne pas ici. Je dis, comment ça, on ne le donne pas ? Moi, j'ai divorcé il y a 15 ans, j'ai toujours mon divorce, mon jugement de divorce. J'ai besoin, on me le réclame des fois.
Mais ce monsieur est de quelle nationalité ?
Algérienne.
Et vous-même ?
Algérienne et française.
D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait un mariage, quoi, a priori, ça sentirait plus les papiers, et puis éventuellement faire venir la première épouse, en tout cas l'épouse actuelle.
Bah, la faire venir, je ne sais pas, en tout cas les enfants, peut-être, oui.
Et alors, vous, votre volonté, ce serait de faire quoi ? C'est-à-dire que, il vous a menti, mais vous pardonnez, ou vous voulez vous séparer de monsieur ?
Non, je veux séparer, je veux retirer sa carte de résident. Je veux que tout sera
D'abord, c'est ce que j'allais vous dire, mais de toute manière, si vous prévenez déjà à minima le procureur de la République, lui-même va engager une procédure, puisqu'évidemment...
J'ai besoin d'un avocat pour...
Par contre, l'avocat est obligatoire. Et il faudra, alors, en dehors d'informer le procureur de la République, mais ça va être une procédure d'annulation de mariage. C'est-à-dire qu'on considère que ce monsieur ne pouvait pas se marier avec vous, puisque la polygamie n'est pas reconnue, et donc le tribunal va annuler le mariage, et il y aura évidemment des conséquences administratives. Vous me parliez de la préfecture, bien évidemment les autorités préfectorales vont sanctionner monsieur.
D'accord, donc il faut un avocat.
L'avocat est obligatoire, hein, la procédure se passe devant le tribunal judiciaire du lieu de domicile.
Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas au tribunal, ils donnent pas. Ils disent j'ai pas, je vous donne quoi comme papier qu'il est pas divorcé, j'ai rien. Il y a pas.
Ce que vous pouvez faire, madame, c'est-à-dire que vous pouvez tenter, j'allais dire le coup de bluff, c'est-à-dire en disant voilà, il est établi où on a appris que monsieur était marié. Et peut-être qu'avec cette assignation, alors c'est le document qui permet d'engager la procédure, si vous-même vous le présentez, ou si peut-être il sera peut-être nécessaire de prendre aussi un avocat au pays éventuellement pour faire ce type de démarche, mais si vous justifiez qu'une procédure est engagée sur le territoire français, ça va peut-être inciter quand même la mairie simplement à dire si l'acte d'état civil où il est inscrit que monsieur serait divorcé, que cet acte d'état civil est faux. Mais c'est vrai que je peux comprendre l'administration du pays qui dit « Attends, on va pas vous donner l'information comme ça, débrouillez-vous. » Mais il faudrait peut-être leur prouver que vous avez fait quelque chose, une démarche, et que pour votre démarche sur le territoire français, vous avez besoin de cette information.
Ouais, ça a l'air d'être compliqué.
Non, c'est pas compliqué.
Il faut être sur place, on peut pas...
Ah, ça c'est autre chose. Bah oui, évidemment.
Sur place, il faut courir. Ok, je prends un avocat sur place, là-bas, ouais. Il va me gérer tout ça. Et voilà, moi c'était l'épreuve pour prouver, je veux pas parler dans le vide. Je veux vraiment qu'il y ait des...
Ah non, mais de toute manière... Là,
prendre un détective privé.
Voilà, ou un détective du bled.
Ils sont tous des...
Attends, si tu veux des preuves, fais des photos.
Ouais.
Tu planques.
Détective corrompu du bled. Ok. Non, madame, tout va bien, t'inquiète pas.
Tout va bien.
Non, mais j'y crois pas. Non, mais le.
Je vais même à la mairie, si je vais à la mairie.
Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire. De toute manière, madame, vous. Ben, vous pouvez demander un acte d'état civil de monsieur, éventuellement.
Ça sort le divorce, marié, divorcé, et marié avec...
Alors, dans ce cas-là, il n'y a que le tribunal qui peut dire si une procédure a existé ou pas.
Le tribunal de...
Ben, le tribunal du lieu où monsieur a divorcé, au pays. Là, par contre, je ne sais pas, ça dépend où il habite.
Bien. Fatima, vous pourrez appeler Maître Serran après l'émission hors antenne.
J'interviens aussi en Algérie.
C'est vrai ?
Non.
Non, bah non.
Enfin, je pourrais.
À Razaouet. Ouais, bon, donnez votre numéro avant.
Alors, 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors, on a Sophia qui est avec nous. Sophia, bienvenue.
Oui.
Oui. Alors, ça commence bien. Sophia a dit oui déjà. Bon, Sophia ?
Oui, je vous entends. Vous m'entendez ?
Très, très bien. Est-ce que vous avez...
Ah, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'antenne. Oui. Bonjour, Maître Serran. Bonjour.
Bonjour, Sophia.
Voilà, moi j'ai une histoire un peu, bon, Philippe l'a déjà entendu, un peu compliquée, et je rends me battre pour, si vous voulez, pour faire le nécessaire. Malheureusement, j'ai un fils qui est malade, qui est schizo, il est reconnu tout ça depuis petit, et il a fait des violences sur une copine, une des copines, donc ça fait la deuxième fois. Il a été interpellé violemment à domicile, et en fait... Je comprends pas comment la police est venue, parce que normalement, ils auraient pas dû me casser la porte, ils auraient dû me sonner. Je voulais savoir s'il y a une sommation avant de casser la porte. Est-ce que c'est normal qu'on la casse tout de suite au moment où je dis que j'arrive?
Parce que madame, c'est en fonction de... Ouais, il n'y a pas de sommation particulière, c'est-à-dire que la police va réagir en fonction de l'urgence ou pas d'une situation. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une urgence absolue, vous imaginez bien que peut-être simplement le temps de faire une sommation, ça pourrait être trop tard. Donc,
oui, mais
ça
moi, j'étais
en fonction de l'urgence de la situation.
Oui, il y avait d'urgence, j'étais pas au courant de ce qui... Moi, j'étais pas au courant de ce qui s'est passé. C'est juste savoir pourquoi, parce que j'en ai parlé un peu j'ai pas les mêmes avis. On m'a dit qu'il y avait un peu d'abus, donc je vais savoir si je me retourne contre eux, la police, parce que moi, ils m'ont déjà mis en Anjou, donc j'étais pas armée. Ils ont fait... mon fils était dans l'étage, ils l'ont mis en Anjou, il a failli sauter du cinquième étage, donc après, je vous dis pas la scène d'horreur... On a tout fait pour qu'il évite de sauter, mais la police, je trouve qu'elle a fait un des policiers a exagéré. C'est-à-dire, l'a beaucoup énervé, en sachant que lui, il était déjà malade sous l'emprise de médicaments. Il était schizo, bien sûr.
Mais là, il y a une question qui se posera si, d'abord, vous pouvez vous retourner contre les uns et les autres, il n'y a pas de difficulté, mais est-ce que les policiers connaissaient précisément l'état de santé de votre enfant à ce moment-là? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est très compliqué.
Non, ils ne connaissaient pas. Par contre, la fille en question, elle connaissait, et je l'avais mis en garde. J'ai même demandé de fuir, parce que le matin même où je l'ai vu pas bien. Et la fille n'a pas voulu partir parce que je lui ai dit, attention, je le vois, il n'est pas bien, il faut partir, elle n'a pas voulu. Donc je regrette qu'elle soit restée à la maison, parce que si j'avais fait partir, on m'a dit que j'aurais dû la... J'ai dit que c'est pas possible de prendre une fille, la jeter comme ça, c'est
pas possible. Si elle est chez vous, madame, si, vous pouvez la jeter comme ça, elle est chez vous. Ah, vous n'avez pas
voilà, braqué. Et on m'a dit, oui, alors, ça ne pas
après,
être méchant.
Après, au niveau des mots, voilà.
Non, parce mais, que je l'avais prévu.
Mais attendez, parce que il faut au moins, on va revenir à la question initiale. Donc finalement, est-ce que la police, alors il venait perquisitionner, il venait récupérer votre fils, c'est ça la police?
Justement, il y a un grave problème. Il y en a
la
un.
La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont précise. Droit.
Parce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Regardez, ils m'ont dit police. Au début, j'ai cru que c'était pauvre police. Ils m'ont dit après, il y a un voisin mort. J'ai dit ah bon? Ah, moi j'étais choquée parce qu'ils m'ont dit un voisin mort. J'ai dit attendez, je vais venir le temps que je mets une veste. Et j'ai dit j'arrive. Il y a mon fils qui entend qu'il y a la police. Lui il est dans l'étage. Il me dit maman c'est la police. Je dis oui c'est la police. Je dis ouvrez. Il me dit faut ouvrir. Si, faut ouvrir. Donc j'ouvre. Et là ils nous mettent au manteau et ils nous disent un voisin mort. Et en fait compte à la fin j'ai appris que c'était faux. Il n'y avait ni police. Pourquoi ils ont perquisitionné? Pourquoi ils cherchaient quelque chose? Il n'y avait pas de drogue. Ils ont trouvé, à part une bouteille d'alcool.
Madame, qu'ils n'aient rien trouvé, c'est une chose. Mais les policiers ne débarquent pas chez les gens comme ça un matin en se disant, tiens, on va aller chez X ou Y pour perquisitionner. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande, une information. Alors, je ne sais pas si c'est un juge d'instruction. Je ne sais pas si c'est des voisins qui se sont plaints. Je ne sais pas si c'est un procureur de la République qui a dirigé tout ça. Mais enfin, vous imaginez bien que les policiers ne débarquent pas chez n'importe
non,
qui.
Non, voilà, ils m'ont dit qui s'est déplacé chez eux, qui a relancé, qui m'a dit je peux pas vous dire le pourquoi du comment, qui est venu se présenter, mais m'a pas parlé comme quoi la fille est en danger, il m'a rien dit, juste qu'une femme s'est présentée, j'ai dit ah bon, et ils m'ont pas dit on peut pas vous dire qui, je suis désolée madame, je vous ai menti, j'aurais pas dû vous dire que qu'il y avait un voisin mort, mais c'était pour vous ouvrir la porte, mais le problème c'est qu'ils m'ont cassé la porte, l'assurance me la rembourse pas. Moi, j'ai pas les moyens. Et deuxièmement, lui, il est schizo, il est parti en état de suicide, vraiment à l'hôpital. Il était injugeable. Et on quand même condamné malgré qu'il est injugeable.
Non, mais madame, s'il a été condamné, enfin, moi, je comprends votre position, mais s'il a été condamné, c'est que le magistrat a considéré qu'il pouvait relever d'une sanction pénale. Après, vous avez le droit de pas être satisfaite et de contester la décision. Mais en tout cas, manifestement, il a pas été déclaré irresponsable.
Sur la porte, Maître Serran.
Non, sur la porte, il n'y a pas... Enfin, un peu, comme dire à l'autre, écrire et puis non, demander si, à être indemnisé, mais ça ne sera rien.
Si on défonce votre porte et qu'on vous la casse...
Non, mais vous savez, en règle générale, je le redis, les policiers, ils jouent pas les bourrins. C'est-à-dire, on vient pas casser la porte pour casser la porte. Mais si vous ouvrez pas, et si, si j'insiste, je suis derrière et vous ouvrez pas, oui, au bout d'un moment... il y a un stade supérieur et puis on défonce la porte parce qu'il y a manifestement un danger potentiel.
Voilà, Maître Serran, la question c'était de savoir si vous n'ouvrez pas, est-ce que les policiers sont en droit de défoncer la porte?
C'est encore une fois, c'est leur mission. C'est-à-dire que si on fait appel à eux ou s'ils interviennent, c'est qu'il y a un danger quelque part. Je vous demande d'ouvrir, vous ouvrez pas. Bien sûr, je peux défoncer la porte. Bon, alors voilà. Après, oui, il faut pas venir se plaindre en disant ma porte est cassée. Mais je le redis, hein, franchement, ou alors c'est rarissime où il y aurait des excès. Alors je sais que c'est parfois à la mode de dire que les policiers sont un peu légers dans leur intervention, mais dans la grande majorité, ils font leur boulot correctement. Ça, on peut au moins le reconnaître. Donc on n'est pas dans un pays où on vient vous défoncer les portes pour rentrer chez vous.
Voilà Samia, merci pour votre appel. Maître Serran, on vous retrouve vendredi prochain.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.